Radio 1. Premier sur l'info. L'info locale avec le doc de l'habitat de Phare. Meubles intérieurs, extérieurs et décorations.
Un journal à marquer d'une pierre blanche, je suis pile à l'heure. C'est parti, 7h30, bonjour Benoît Buquet.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Dans ce journal, les primes généreuses des employés du port autonome, notamment cette indemnité de départ, 10,5 millions de francs en moyenne par départ. C'est la Chambre territoriale des comptes qui en parle dans un rapport publié hier au sujet du port autonome. L'école Toata, obligée de se réorganiser, l'un de ses instituteurs a été mis en examen et incarcéré pour trafic d'ice vendredi. Remplacement de l'enseignant par une brigade d'instituteurs, psychologue scolaire mis à disposition, reportage à l'école Toata dans ce journal. Et puis le concours des exportateurs lancé hier pour soutenir les entreprises du Fénois à l'étranger. Un concours avec à la clé un chèque de 600 000 francs et une tonne de fret gratuit à gagner.
Et on démarre donc avec les primes généreuses du port autonome, épinglées par la Chambre territoriale des comptes.
Le dernier rapport de la juridiction financière qui détaille les 800 millions de francs de primes octroyées au personnel du port autonome entre 2012 et 2016. Diverses primes qui ne dépendent ni des résultats de l'établissement, ni de leur performance individuelle, nous dit le rapport. La plus grosse d'entre elles étant l'indemnité dite de capital retraite. Les précisions sur ce sujet d'Antoine Samoyau.
La prime capital retraite, dans les faits, une indemnité de départ selon les termes de la CTC. Sur la période 2012-2016, 326 millions de francs ont ainsi été versés en indemnité de départ à 31 agents, soit une moyenne de 10 millions et demi par agent, quel que soit le motif du départ, y compris pour faute lourde. La situation avait déjà été soulignée lors du dernier rapport de la CTC en 2012. Elle n'a pas évolué alors que la direction générale de l'époque avait admis la nécessité, je cite, de mettre fin au système. Deuxième indemnité importante, la prime de fin d'année d'un montant maximal de 325 000 francs bruts pour les salariés. Enfin, le port autonome distribue aussi des indemnités de sujétion, 113 millions en 5 ans, des primes de sujétion, 22 millions, des primes d'ancienneté, 45 millions, des primes fixes, 87 millions et des prime de stabilité, 12 millions. Des indemnités qualifiées de généreuses par la CTC, alors que la rémunération brute moyenne des 139 agents du port autonome s'élève en 2016 à 472 000 francs bruts par mois.
Antoine Samoyau, merci beaucoup. Et autre grief formulé par la Chambre territoriale des comptes, l'absence de stratégie pour le port autonome, un schéma directeur non respecté, des investissements au coup par coup, des directeurs successifs nommés sans lettre de mission et une gouvernance à rénover pour garantir l'autonomie de cet établissement public.
L'école Toata s'organise après l'incarcération de l'un de ses enseignants pour trafic d'ail.
Oui, vendredi, Jacob Toutavé, un instituteur d'une classe de CM2 de l'école Toata, a été mis en examen pour trafic d'ice et incarcéré. 3 jours plus tard, hier matin, un conseil des maîtres a eu lieu en fin de matinée en présence de l'ensemble du corps enseignant, de l'inspectrice d'éducation et de la fédération des parents d'élèves. L'inspectrice de l'éducation Corinne Grasset a donc affirmé que le remplacement de cet instituteur sera opéré toute l'année par une brigade de remplacement. Elle a aussi annoncé qu'un psychologue scolaire sera à la disposition des élèves.
Ça sera géré dans une continuité de pédagogie et nous nous attachons à garantir la continuité des apprentissages et la continuité des projets dans le cadre du projet d'école mené par l'école Toata.
Est-ce qu'un travail de fond va être fait par rapport aux élèves?
Bien sûr, cette première à l'issue du conseil des maîtres, nous avons évalué et repéré quelques élèves qui ont exprimé une certaine fragilité. Donc le psychologue scolaire est à leur écoute, il reste sur l'école et pour les enfants qui le souhaitent, ils auront un temps d'échange façon à pouvoir désamorcer quelques situations ou malaise de la part des enfants.
Et au-delà du travail du psychologue, l'inspectrice de l'éducation a tenu à souligner le rôle de l'équipe pédagogique.
C'est important que les enfants puissent comprendre effectivement qu'il y a des choses dont on doit rendre compte dans un cadre privé et que les apprentissages et tout ce qui se passe en classe relèvent effectivement du travail de l'enseignant. Donc c'est ce travail-là que les enseignants vont mener. Et puis il peut y avoir tout à fait des thèmes de sensibilisation sur divers sujets, de prévention, prévention du cyberharcèlement, voilà. Donc ce travail-là pédagogique sera mené au cours de l'année.
Et le président de la Fédération des associations de parents d'élèves, Tepoine Wisnot, considère, lui, rassurantes les mesures prises hier.
Tous les enseignants de l'école vont devoir identifier les enfants qui sont perturbés par cet événement, qui est regrettable, on doit le dire. Nous sommes en situation de crise et des mesures réparatrices doivent être prises. Nous allons rester, bien évidemment, vigilants, mais après, c'est un travail de partenariat qui doit se poursuivre sur l'année. L'objectif de la communication que nous avons entrepris était tout d'abord d'éviter l'effet de panique. On sait bien comment est-ce que les choses peuvent très vite déraper dans la tête des uns et des autres. Et il était nécessaire que nous rassurions nos parents et leur dire, voilà, l'école Toata a de bons enseignants. Il peut y avoir effectivement des comportements individuels qui ne rentrent pas dans le système, mais il ne faut pas dire que c'est l'école Toata tout entière et surtout les enseignants de Toata qui sont comme ça.
Un reportage à l'école Toata réalisé hier matin par Vaïté Oural et Pambrun.
Le jeune homme retrouvé dans l'eau aux Trois Pontons samedi soir est donc bien mort de noyade.
Oui, c'est la conclusion de l'autopsie réalisée hier sur le corps du jeune homme d'une vingtaine d'années retrouvé aux Trois Pontons à Punaouia samedi soir vers 23h par des clients des roulottes. On sait donc qu'il est mort noyé. Les gendarmes s'emploient maintenant à recueillir des témoignages de l'entourage de la victime pour comprendre les circonstances de sa mort.
La dengue de type 1 continue son activité modérée, dit la direction de la santé.
Depuis deux semaines, 36 cas confirmés de dengue de type 1, plus 3 cas probables selon le bulletin de veille sanitaire publié hier. Selon ce bulletin, le virus de la dengue de type 1 circule actuellement à Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Moorea, Nukuhiva et Rangiroa. Un peu plus d'un quart des personnes touchées sont des personnes de moins de 15 ans. Pour rappel, l'alerte sanitaire pour la dengue de type 2 a officiellement été levée il y a deux semaines.
Et un record de production hydroélectrique a été battu pour Tahiti, c'était samedi.
Oui, c'est une annonce faite par l'entreprise EDT Engie. La production hydroélectrique des équipements de Titaviri à Papeari a atteint samedi soir à 22h30 4142 kW. Nouveau record depuis la mise en exploitation de ces installations. Cela représente une part de 8,3% de la puissance instantanée totale de l'île de Tahiti à ce moment-là, grâce notamment aux nouvelles installations Hydromax à Titaviri à Papeari sur EDT Engie.
Et enfin, le concours des exportateurs a été lancé hier pour soutenir les entreprises du Fénois à l'étranger.
C'est la deuxième édition de ce concours. L'année dernière, le premier prix du concours de l'exportateur avait été remis à Noni Energy, qui s'apprête aujourd'hui à pénétrer le marché néo-zélandais et à tester le marché australien. La Chambre de commerce et la délégation polynésienne aux investissements relancent donc ce concours cette année. À la clé pour le premier prix, un chèque de 500 000 francs, une tonne de fret gratuite, 100 000 francs de crédit de la Sofidep et puis un site de e-commerce clé en main. Les entreprises ont jusqu'au 9 novembre pour déposer à la CCISM leur stratégie d'exportation. Le président de la Chambre de commerce, Stéphane Chinloy.
Le business plan, donc quelles sont les forces au niveau de nos produits polynésiens, puisqu'en face on va trouver des produits du même type qui viennent de tout le Pacifique, donc qu'est-ce qui peut motiver un fournisseur à l'étranger à vouloir importer un produit polynésien. Donc c'est toute la partie export qui est jugée. Est-ce que l'étude de marché a été bien faite? Est-ce que les coûts ont bien été maîtrisés? Donc après, il y a le transport. Là, ils auront la facilité d'avoir un transport gratuit pour amorcer la pompe. Mais après, c'est de prendre vraiment la mesure du coût pour arriver sur un coût de vente du produit qui doit rester concurrentiel. Ou sinon, quels sont les marchés, quelles sont les cibles de marché qui peuvent correspondre.
Stéphane Chinloy qui explique aussi comment la Chambre de commerce et l'Institut Business France accompagnent les entreprises locales à l'étranger.
En les accompagnant, en mettant l'ensemble des moyens, l'ensemble des informations sur chaque marché. Chaque marché est différent et on est dans l'obligation de voir toutes les contraintes, toutes les facilitations. Ensuite, apporter les conseils techniques. Bon, par exemple, avec Business France, là, pour la mission Japon, est prévu pendant 3 ou 4 jours des rendez-vous avec les différentes entreprises intéressées par nos différents produits polynésiens. Donc de trouver à les matcher, surtout de trouver les niches où ces produits polynésiens pourront s'exporter.
Stéphane Chinloy, président de la Chambre de commerce, interrogé hier par Valentine Bluet. Actuellement, 50 à 100 entreprises polynésiennes sont exportatrices, selon lui. Et pour développer leur présence, la présence des sociétés polynésiennes à l'étranger, la Chambre de commerce s'apprête à lancer un cluster de l'exportation.